Il y a une petite question sur le crapaud. C'est intéressant. Dieu me crée, ne crée pas le crapaud, ni l'univers physique directement. Cependant, si Dieu ne les soutenait pas dans l'être, à chaque instant, tout ne retournerait pas, retournerait au néant. Comment concilier les deux? C'est qu'il y a une cause seconde. Dieu ne gouverne pas directement l'univers physique. Il le gouverne par les causes secondes. C'est pour ça qu'on peut modifier les saisons. Ce n'est pas Dieu qui les modifie. C'est l'homme qui les modifie. Par les expériences qu'il a faites, il a touché l'équilibre. L'équilibre du monde est fait de causes secondes. Comment ça se fait qu'il y a un été, qu'il y a un hiver? C'est pas les causes secondes. Dieu a ordonné les causes secondes. C'est une œuvre de sagesse, le monde. C'est une œuvre d'équilibre. Extraordinairement un ordre. L'atmosphère, quand on étudie scientifiquement l'atmosphère, mais c'est fou comme équilibre. C'est extraordinaire. Et on a modifié ça. On touche les causes secondes. On ne touche pas l'être, mais on touche le devenir. On peut le modifier, le devenir. Donc, on peut toucher l'ordre des causes secondes. Et si on touche l'ordre des causes secondes, on modifie par le fait même la température. Votre température, ce n'est pas Dieu qui crée la température directement. C'est pour ça que vous priez Dieu pour qu'il y ait de la pluie. Pour que Dieu change l'ordre des choses. Pas directement Dieu, par les anges. C'est les anges qui sont préposés à l'équilibre du monde. Ça leur fait une petite occupation. C'est comme si les êtres supérieurs, ils s'occupent des êtres inférieurs. Ils s'occupent beaucoup plus qu'on ne pense. Et c'est comme ça que le démon intervient. Parce que le démon n'a pas perdu sa nature. Et Dieu lui a laissé sa nature. Et cette nature, c'est d'être un ange. Et donc, il a un pouvoir sur l'univers. C'est pour ça qu'on dit les jours de ténèbres. Et c'est sûr, il y en a un ange gardien qui est là à empêcher le démon de le faire tomber dans le panneau. Parce que le démon, quand vous conduisez l'auto, n'a qu'un désir, c'est que vous avez un accident. Ça, c'est sûr. Mais il y a un bon ange gardien. C'est pour ça qu'on récite une prière. On demande à l'ange gardien d'être là. Parce que le démon n'a pas besoin de prière pour qu'il agisse. Et il est toujours éveillé. Alors, c'est ça la grosse difficulté pour nous, pour comprendre ça. C'est que Il y a un texte de la sagesse qui est très beau pour ça. Quand il s'agit de l'homme, Dieu le regarde pour lui-même. Tandis que Dieu ne regarde pas le crapaud pour lui-même. Il regarde le crapaud dans un ensemble zoologique. Le crapaud a sa place parmi les animaux, les petits copains. Et on n'est pas copains du crapaud, quoi. C'est un peu malsain d'avoir un crapaud dans sa chambre couchée et de dire « Moi, je ne dors que grâce au crapaud. » Il y a des gens comme ça, je connaissais quelqu'un qui avait un serpent, un gros serpent, dans son appartement, à Paris. Et pour elle, c'était son équilibre d'avoir un serpent. C'est un peu malsain, ça. Les homéopathes diraient des choses très curieuses sur le venin de serpent. Le venin de serpent sert en homéopathie à diminuer la jalousie. Il y a des gens qui ont une jalousie épidermique. Ils n'en peuvent rien, c'est épidermique. Ils ont des antécédents, des grands-pères, arrière-grands-pères, ou arrière-grand-mères, qui étaient jalouses comme un crapaud. Alors, homéopathiquement, c'est un homéopathe qui m'a raconté ça. Parce que en Suisse, il y avait beaucoup de jalousie comme ça. Il m'a dit, il y a un produit du venin de serpent qui joue là-dessus et qui diminue un peu. Parce qu'on sait que la jalousie fait des dégâts. Le père d'eau m'a dit, à la fin de sa vie, dès qu'il y a un drame dans une communauté, cherche ta cause en voyant la jalousie. La jalousie a tué. Dès le point de départ, Cain a tué Abel. Et la jalousie continue toujours. C'est toujours une jalousie qui est la cause des divisions. On ne la voit pas toujours, hein, parce que la jalousie, c'est le péché qu'on cache le plus. On n'aime pas d'avouer qu'on est jaloux. On est tous un peu jaloux. Hein. On n'aime pas d'avouer ça. C'est un péché qu'on n'accuse pas beaucoup. Et par le fait même qu'on n'accuse pas beaucoup, on ne peut pas lutter beaucoup contre. C'est très difficile de lutter contre la jalousie. Parce que la jalousie agit par en dessous. Tout le temps. C'est pas direct. Alors, revenons au crapaud. Dieu organise tout le monde physique selon un ordre des causes secondes. Alors, Dieu agit sur les causes secondes, ça c'est sûr. Mais pas directement, ça dépend. Et qu'au second, en définitive, c'est l'homme. L'homme, par l'art, agit sur le mouvement, pas sur l'être. Sur le mouvement, sur les qualités, sur l'ordre. Et l'homme ajoute à l'ordre du monde un ordre des chemins de fer, des avions. Dans quelle mesure cet ordre agit sur l'ordre fondamental des natures. On ne le pense pas, mais nous devons y penser philosophiquement. Est-ce que le TGV a une influence sur la nature ? Est-ce que les avions ont une influence sur la nature ? Vous voyez, cet ordre-là n'est pas prévu par Dieu, n'est pas de Dieu, il est de l'homme. Et plus la science augmente, plus le pouvoir de l'homme augmente. Et donc, il arrive un moment où, nécessairement, l'ordre artificiel des choses étant particulièrement dense, intense, agit sur les grosses secondes. Et alors, à ce moment-là, le monde est perturbé par l'art, la technique, très poussé des hommes. Et les hommes sont complètement imprudents. Ils font aucune attention à la nature. Ils font attention si elle les gêne. Ils ne se posent pas la question. Oui. Alors c'est au fond un problème très complexe lors du monde. C'est extrêmement complexe. Et l'homme, comme toujours, un gamin, Nietzsche a tout à fait raison de dire, c'est un gamin. Le plus grand des savants par rapport à l'ordre du monde est un gamin. Parce qu'il voit l'ordre du monde selon sa science, selon son art, selon sa technique. Mais qu'est-ce que c'est qu'à côté de l'ordre du monde ? C'est un jeu d'enfant. Mais comme ce jeu d'enfant grandit, et comme ce jeu d'enfant devient de plus en plus puissant, ah, il y a des rencontres. Et voir à quel moment est la rencontre, je ne peux pas le dire. Hein. Il faudrait que je connaisse parfaitement l'ordre du monde. Mais je prends ça comme image, hein. Parce qu'on ne le connaît pas. Hein. Mais il y a un ordre du monde voulu par Dieu et qui dépend des étoiles et l'influence de la lune. Mais qui dépend des étoiles aussi. Parce que les étoiles ont leur mot à dire sur l'équilibre du monde. Et je ne le connais pas. Le monde des étoiles, je connais très peu de choses sur les étoiles, astronomiquement. Or, le soleil a une force étonnante. Un orage dégage des puissances étonnantes. Ça, je ne connais pas. Je ne connais pas la puissance d'un orage. Alors c'est une puissance quelque chose. Hein. Alors voyez, il y a ça. Et puis il y a l'ordre que l'homme se fabrique. Et nous fabriquons notre ordre par des techniques de plus en plus développées. Et ces techniques de plus en plus développées pour l'avion, pour les avions, pour les chemins de fer, pour les automobiles, tout ça indépendamment de l'ordre de Dieu. Et Dieu l'a pensé comme ça, il a voulu comme ça. Dieu a remis l'univers aux soins de l'homme pour le perfectionner. son art. Mais gare à l'ubris. L'ubris, c'est justement l'orgueil. Les Grecs avaient ce sens de l'ubris, de l'orgueil. Et c'est dit dans l'Écriture, quand l'homme a commencé à construire des murs, il a construit des gratte-ciels. C'est quelque chose. C'est pas rien. Cette domination de l'univers par les avions. Là, il y a des rencontres. Dieu a laissé des possibilités énormes pour l'homme, pour que l'homme joue. Il joue à sa manière, et il joue dans l'univers. Mais c'est limité. Dieu n'a pas laissé un pouvoir infini à l'homme. Et dans l'Écriture, on voit qu'il arrête une construction d'une tour. Ça a un sens. C'est pas cette tour qui était là, mais ça a un sens que l'homme fabrique, et quand l'homme va trop loin dans la fabrication, il se croit Dieu, tout pouvoir. L'architecte, quand il construit, il s'intéresse au sol. Est-ce que ce sol peut supporter ce bâtiment qui aura une hauteur, un poids de temps? Il s'intéresse au sol. Ça, il peut le mesurer. La résistance du sol. C'est quand même quelque chose de très important. Parce que si vous construisez sur un sol qui est tout simplement les alluvions, et la Seine, parce que ça, je l'ai vu concrètement. Bon, la Seine actuellement, elle est petite. Il y a des années et des années, la Seine était un fleuve beaucoup plus large. On voit jusqu'à... pour voir vraiment les dimensions. Et quand on a construit le couvent d'Étiole, on l'a construit sur les alluvions. C'est-à-dire l'ancien, qui était la rive de la Seine, qui par le fait même n'avait pas la même solidité. Il fallait retrouver dans le sol l'endroit qui était au-delà de ce qu'était la Seine avant. Et on comprend ça. L'homme a travaillé tout ça. Et donc ça n'a pas la solidité de la nature, du sol rocailleux, du sol la roche. Et j'ai dit dans l'Écriture, hein, que l'homme avant de construire réfléchit pour savoir si solide. Mais il n'y a pas que la nature, il n'y a pas que la terre, il y a l'air, avec le vent, avec tourbillon. Et quand vous construisez énormément et très haut, vous êtes un obstacle. Alors, ça tient, mais à un moment donné, ça ne tiendra pas, vous savez. Quand on a commencé à faire des vitres énormes, n'est-ce pas, on avait mal calculé la résistance du verre qui change, hein, quand les chaleurs ne sont pas les mêmes. Et s'il est très grand, alors il y a eu des choses qui ont éclaté, tout simplement. Au fond, On connaît peu de choses de la nature. On connaît de plus en plus, mais on les connaît. Et à travers des grosses difficultés. Alors, distinguons toujours l'ordre voulu par Dieu, l'ordre fabriqué par l'homme. Une ville est fabriquée par l'homme, ce que se dit Nietzsche. Nietzsche avait bien compris ça. Quand l'homme voit la mer, l'océan, quand il voit le désert, quand il voit les hautes montagnes, il dit Dieu. Quand il voit une ville, il dit l'homme. Plus le monde se civilise artificiellement, plus c'est l'homme. C'est son monde, c'est sa ville. Alors que le désert, il n'y a pas eu de trace humaine. La haute montagne, il n'y a plus de trace humaine. On est en face de la nature. Et ça vous fait comprendre, au fond, pourquoi le philosophe, il y a la philosophie de la nature. Et la philosophie de la nature, c'est saisir ce qui est fait, non pas directement par Dieu, mais qui est dans l'ordre de sagesse vis-à-vis de l'univers. Alors, le crapaud, il dépend des causes secondes pour vivre. Si vous mettez le crapaud dans un climat trop chaud, il va éclater. Il va passer par des convulsions terribles, puis à un moment, vous. Et c'est pour ça, faites ça pour le crapaud, parce que c'est un animal qu'on peut voir. Mais le crapaud ne peut vivre que dans telle et telle chose. Tous les prisonniers de la guerre revenaient en disant « Pas un seul animal n'aurait vécu ce que nous avons vécu. » Ça, je l'ai entendu par des prisonniers qui revenaient directement. Ils étaient toujours ça, pour exprimer ce qu'ils avaient vécu. C'est l'homme qui résiste le mieux aux différences de température, par la volonté. C'est très beau, tu restes. Il y a quelque chose de très grand là, que par la volonté, on résiste à la nature, on résiste au changement de la nature. Beaucoup plus que le crapaud, beaucoup plus que l'animal, le chien. Et j'entends encore en disant ça, pas un animal n'aurait vécu ce qu'on a vécu, il serait mort. Le monde est fabriqué, est-ce qu'il est fabriqué pour, par Dieu? Alors ça, c'est la providence. Hein. Ce n'est pas le gouvernement divin, c'est la providence. La providence a pensé à l'ordre du monde. C'est une grosse machine, hein, avec toutes les étoiles. C'est quand même quelque chose. L'équilibre des étoiles. Tout cela pour la petite Terre. Qui est petite à côté de l'immensité des êtres célestes, pour que l'homme puisse vivre dans son corps. Et ça, le philosophe peut le dire. Dieu n'a pas créé l'univers pour l'univers. Parce que Dieu n'a pas besoin de s'amuser. Il est Dieu, l'inspiration sur abondance. Il n'a pas créé l'univers pour l'univers. Il a créé l'univers pour l'homme. pour l'homme, parce que il n'a pas créé l'univers pour l'ange. Bon, les anges, on ne peut pas en parler philosophiquement, hein, parce qu'on n'a pas l'expérience. J'ai jamais donné la main à mon ange. Alors, je ne peux parler que des êtres humains. Et l'univers tout entier, cet univers que je connais très mal, hein. Je connais ma petite Terre, je connais maintenant la Lune. On peut dire que l'homme connaît la Lune, il a mis son pied sur la Lune. Il connaît pas plus Mars. On pourrait y aller, mais il connaît pas plus. C'est pas beaucoup la Terre et la Lune, hein, comparativement à toutes les étoiles, quoi. Pourquoi Dieu a fait ça? C'est quand même extraordinaire, la création, hein, la création de tout cet univers immense, l'ordre de tout cet univers immense. C'est bon d'y penser. Alors, on doit y penser. L'équilibre très particulier pour que l'homme puisse vivre. Cet équilibre n'existe pas dans le soleil. Je ne pourrais pas vivre. Cet équilibre n'existe pas dans la lune. Je ne pourrais pas vivre. Cet équilibre existe seul sur la terre, dans ce monde immense. Le philosophe peut se poser la question, est-ce qu'il y a d'autres planètes ou d'autres terres où existent des êtres qui seraient des êtres semblables à l'homme et peut-être très différent. Et plus on avance, plus il semble que non. Plus il semble que cet équilibre très extraordinaire de la Terre est unique. Et Dieu a créé tout ça pour l'homme. Ça, c'est la largesse de la magnanimité du Créateur. Puisque tout cela est nécessaire à l'équilibre de la Terre pour ma vie. Donc, on distingue, au point de vue philosophique, comment Dieu conservare, et le Dieu crée. Dieu n'a pas créé immédiatement le crapaud. Il a créé par les causes secondes. Je ne sais pas, et on ne sait pas. Le philosophe ne sait pas ce qui a été créé immédiatement par Dieu. Est-ce qu'il a, dès le début, il a voulu que tout provienne selon un mode évolutif, l'évolution. L'évolution est une réalité, on ne peut pas la nier. Ce qu'on nie, c'est quand on confond évolution et création. Là, il faut bien distinguer les deux, évolution et création. Et on a entre les deux le mot conserverait. Et donc, distinguons bien création, ce qui dépend directement de la volonté de Dieu. Dieu crée l'âme, parce que mon âme ne peut pas provenir d'une cause seconde. Mon intelligence humaine est créée directement par Dieu. Donc, créer, conserver. Dieu conserve l'univers. Et tout l'univers, pas seulement la Terre, tout l'univers, toutes les étoiles, Dieu les conserve dans l'être. Puisque c'est par rapport à l'être que Dieu conserve cet univers. Mais Dieu veut qu'il y ait un ordre à l'égard des causes secondes. Ce n'est pas l'homme directement qui conserve ses réalités. Lui, il met des abris en mettant des jardins zoologiques. Et c'est tout à fait être gardien de certaines choses très rares. On voit que des espèces qui disparaissent, on veut à tout prix qu'elles ne disparaissent pas. Alors l'homme se fait ange gardien de la bête. Parce que l'homme, de l'espèce humaine, il n'y a pas trop de danger, quoique le danger peut exister que l'espèce humaine disparaisse quand l'immortalité est au-delà des naissances. Et ça peut aller très vite, ça. Dans les pays trop cultivés, on a ce problème-là très grave qui fait que la mortalité dans un pays est plus forte que le taux de naissance. Donc, on peut voir qu'au bout d'un certain temps, ce pays disparaîtra. Et ça peut aller assez vite. Mais au fond, on est gardien avec Dieu de la diversité des espèces. Mais on ne les a pas créées. On essaie de voir les parentés. Et ça, c'est tout le problème de l'évolution. La très belle exposition qui avait eu lieu à Paris sur l'évolution, qui était très extraordinaire, qui était très belle. Ça coïncidait avec la fin de mes études, de sorte que j'ai pu aller à cette exposition. C'est une très belle. Et alors, on avait trouvé cette idée merveilleuse, c'est que quand on quittait cette exposition, qui était au Trocadéro, quand on quittait cette exposition, il y avait une grande glace. Et donc, on avait le Parisien. La fin de l'évolution, c'était le Parisien. Pour contenter le Parisien. Mais on commençait par le tout petit animal. C'était assez joli. Je connaissais celui qui avait organisé. Alors, il m'a dit, je fais ça, ça fera plaisir aux gens. Terme de l'évolution, on ne peut pas aller plus loin. Mais c'est un très gros problème, l'évolution. Et ça modifie tout le temps. Il y a les évolutionnistes, les non-évolutionnistes. Ce qui prouve très bien que c'est très délicat, toutes ces questions-là, c'est multiple. Ce n'est pas philosophique. C'est l'expérience qui peut dire ça. Le philosophe ne sait pas. Il constate la diversité des animaux. Il constate que cette diversité à cause des causes secondes, et qu'il y a celui qui a créé en premier lieu toutes les espèces diverses. Alors il en a au moins créé deux. l'homme et l'animal. Alors, quel est l'animal de choix? Alors, on pense que c'est le poisson. Animal aquatique. Mais il y a beaucoup de chance que dès la création du monde, il y ait eu une grande diversité. Il y a beaucoup de chance, mais on ne sait pas. Et on ne peut pas le savoir. Hein. On peut mettre des hypothèses, c'est très bon de mettre des hypothèses, mais on ne le sait pas. On ne sait pas du tout. Qu'est-ce qu'il y avait au point de départ? Comme on ne sait pas la date exacte de la création. Parce que dans les chiffres qu'on donne, souvent, on se trompe. Parce que on s'appuie sur ce qui actuellement évolue. On reconnaît que l'évolution n'est pas la même que celle d'il y a 100 ans. Tout le monde évolue différemment à notre époque qu'il y a 1000 ans. Donc, on ne peut pas savoir. Parce que je ne sais pas, il y a 1000 ans, comment ça a évolué. Mais la question du temps joue évidemment énormément là-dessus. Donc, on peut faire des approximatives. Mais on ne peut pas plus. Alors, distinguons bien. Création de l'âme humaine. Création de l'univers. Dieu a créé cet univers en créant un ordre dans les causes secondes. Et il y a des causes secondes qui ont le privilège d'être créées par Dieu. Mais comme Dieu est très discret, ce n'est pas un nouveau riche. Dieu est un ancien. Il est éternel. Et là, il y a la discrétion extraordinaire de Dieu qui ne dit pas, toi, tu es créé directement par moi. Non. Je ne sais pas quel animal a été créé directement par Dieu. Est-ce que c'est la souris? Ou est-ce que c'est le rat? Ou est-ce que c'est le chien? Ou est-ce que c'est le chat? Je n'en sais rien. Tout ça peut provenir d'évolution. Et l'évolution fait des choses très étonnantes. Quand on voit des familles d'animaux, ça ne gêne pas du tout. C'est au contraire pour montrer la libéralité de Dieu et la grandeur du Créateur qui veut créer des types qui évoluent. Alors, qu'est-ce qu'il a créé au point de départ comme diversité? Je n'en sais rien. Et si on me dit, bah, sûrement, non, je ne sais pas, je ne peux pas le savoir. Puisque je peux savoir que ce qui est directement sous l'expérience. Donc, Dieu crée l'homme, l'âme, alors ça oui. Dieu a créé notre univers et la première diversité de notre univers, je ne la sais pas, parce qu'il y a l'évolution. L'évolution n'est pas la création, mais c'est la mutation qui a des causes secondes. C'est les causes secondes qui se modifient et qui alors font des choses différentes, diverses. Et Dieu conserve tout cela, comme Dieu conserve Lucifer. Dieu pourrait l'annihiler, mais le Créateur n'annihile rien. Alors, puisque Dieu conserve Lucifer, il conserve aussi le crapaud. Conserve directement les anges. Le crapaud, il conserve indirectement grâce aux causes secondes. s'il n'y avait pas un univers qui permet au crapaud de trouver un milieu de vie, le crapaud mourrait. Et il n'y aurait plus de petits crapauds. Si le milieu de vie changeait tellement qu'il empêcherait à tel animal de vivre, l'animal disparaîtrait. C'est comme ça qu'on voit des espèces qui disparaissent. Parce que le milieu de vie ne permettait plus qu'ils vivent. Donc il y a eu des modifications du milieu de vie. L'homme vit avec tel milieu de vie. Si ce milieu de vie change tellement et devient un milieu où il n'y a plus de chaleur, d'être comme la lune, on mourrait tous. L'espèce disparaîtrait. Donc oui, le conserverait du corps humain dépend de toutes ces causes secondes. Dieu conserve directement notre âme, parce que notre âme est créée directement par Dieu, mais mon corps n'a pas été créé directement par Dieu. Mon corps dépend de toute cette cause seconde antérieure. Et je peux remonter très loin. Mais je suis dépendant de ça quant à mon corps. Donc mon corps n'est pas créé directement par Dieu. Et cette chose très curieuse, c'est que mon âme est créée directement par Dieu, mon corps ne l'est pas. Oui, le conserverai et le rénoverai. J'ai en moi une force de rénovation, l'âme. J'ai en moi une force de conservation, le corps. Le corps est très conservatif. Il garde. Et mon âme veut une liberté folle. C'est très curieux la création du corps, de l'homme. C'est vraiment une chose, une réalité infiniment mystérieuse. L'hérédité, le conservare. Dieu s'en sert, Dieu veut cela, et il crée l'âme. Pour chacun d'entre nous, il y a eu une création directe de Dieu par l'âme. Alors c'est pour ça, vous voyez, que nous voyons aujourd'hui une tendance philosophique et scientifique par le positivisme à nier l'existence de l'âme. Je crois que ça c'est un des points où on doit être extrêmement vigilant, parce que la poussée du monde sous l'influence du démon, c'est d'arriver à nier l'âme. J'ai vu le moment, c'est pas si vieux que ça, hein. On a affirmé l'âme en Sorbonne, il y a 100 ans. Mais depuis 50 ans, à peu près, j'ai vu ça quand j'étais jeune étudiant, des étudiants venant de Sorbonne, où on leur disait que l'âme n'existait pas. Une affirmation qui augmente. J'ai vu à Lausanne, professeur de philosophie de Lausanne que je connaissais bien, il me disait, mes étudiants étaient en majorité protestantes, nie l'existence de l'âme. J'ai beau de leur dire, il l'a dit philosophiquement, on ne peut pas affirmer l'existence de l'âme. Alors quand je disais que philosophiquement, c'était les grands problèmes de Platon et d'Aristote, on peut affirmer l'existence de l'âme. Il m'a dit, je ne peux pas vous inviter à faire un cours, mais je peux inviter tous mes étudiants chez moi. Et alors, vous ferez un cours supplémentaire chez moi. Puisque comme protestant, un catholique ne peut pas faire un cours, surtout un religieux, ne peut pas faire un cours à l'université de Lausanne, protestante. Et il fait ce cours-là. Et il était 40 à peu près. Et tous affirmant la négation de l'âme. Impressionnant de voir cette montée qui se fait progressivement et qui se fait très vite. Je voyais récemment un professeur de biologie de 60 ans, professeur dans l'université, on m'interdit de parler de l'âme. Chez vous, je voudrais bien, mais à l'université, non. Ce n'est pas scientifique. Vous ne pouvez pas affirmer là. Et ça, c'était récent, parce qu'il est. Mais de plus en plus, on voit ce positivisme qui gagne et cette volonté très nette de suppression de l'âme. Parce que tant qu'on affirme l'âme, on doit affirmer le Créateur. Si on nie l'existence de l'âme, il n'y a pas de raison du Créateur. Les causes secondes suffisent. Je crois qu'on doit être très, très attentif à ça. Parce que notre âme, elle ne dépend pas totalement et radicalement, elle ne dépend pas des causes secondes. Le développement de mon âme dépend des causes secondes, mais pas la création. Je vous salue Marie, pleine de grâce.